Donc, il n'a pas fait ce qu'il fallait, mais en tout cas, il lui a dit, Yaakov sait. Amar Rabbechia, Beshem Rabbechelbo, Rabbi Shmuel Bar Yosena. Melamed, Sheraoua Kadosh Baruchu, le Yaakov Avinu. Donc maintenant, voilà je vous ai lu le corps du texte, si vous voulez, et maintenant l'interprétation. C'est que Hachem a montré, à Kadosh Baruch Hu a montré à Yaakov Avinu, Sarah shel Bavel ole beyored, le prince de Bavel qui monte et qui descend, idem Madaï, idem Yavan, idem Edom. Amarlo à Kadosh Baruch Hu le Yaakov. Maintenant, ça commence à être intéressant. Le reste, c'est très connu. Mais ici, Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, Yaakov, lama enata ole? Pourquoi est-ce que tu ne montes pas? Dans notre Midrash, c'est sous forme interrogative. Pourquoi est-ce que tu ne montes pas? Dans la version du Midrash Rabbah, il lui dit, monte. Mais le résultat est le même. De toute manière, Beota Sha'a, Nityare Avinu Yaakov Ve'amar. À ce moment-là, Yaakov a eu peur. Ici, il faut entendre. Beota Sha'a. À ce moment-là, Yaakov a eu peur. Et Ve'amar, Keshem Sheyesh La'elu Yirida, Tachani Yesh Yirida. Il a dit, ben, si je monte, ben, comme eux, ils sont montés, mais ensuite ils redescendent, moi aussi je vais monter et je vais redescendre. Amarlo à Kadosh Baruchou, Imata ole, en le chayerida. Toi, si tu montes, tu redescends pas. Velo velo ala. Mais Yaakov n'a pas eu confiance et il n'est pas monté. Avshmuel bar Yosefa aya doresh. À la suite de dans la suite de ce midrash, justement, un des deux là qui avait parlé, il est doresh un passouk dans Teilim, du Teilim 78. Je crois que c'est le passouk 32. Dans le passouk 32, il est écrit Bechol zot chatou od v'lo e'minu beniflotav. Avec tout ça, dans le contexte, c'est avec tout ce que j'ai manifesté pour les Bnei Israël, avec tout cela, ils ont continué de fauter et ils n'ont pas eu confiance dans mes prodiges. Amarlo à Kadosh Baruchou. Alors écoutez bien. Kadosh Baruchou l'a dit à Yaakov. Ilu alita ve'emanta. Si tu étais monté et que tu avais fait confiance. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas dit à l'envers. Normalement, on devrait dire si tu m'avais fait confiance et tu étais monté. Il dit si tu étais monté et tu m'avais fait confiance, lo haïta lecha yirida le'olam. Tu ne serais jamais redescendu. Et là, mais, hoïl veloé manta, puisque tu ne m'as pas fait confiance, arevanecha mishtabdin be'aleluah arba malchuyot ba'olamazé. Tes descendants, ils vont servir ces quatre royaumes dans Olamazé. Mais comment? C'est pas un, il utilise le mot Meshubadim, qui est le. Pardon? Meshubadim, Meshubadim, qui est le mot qui veut dire esclavage. Mais il dit, qu'est-ce que c'est l'esclavage en particulier ici? C'est Bémissim, Barnoniot, ou Bégoulgoliot. C'est toutes sortes d'impôts. Des impôts, des impôts fonciers, des impôts par tête de pipe, etc. Donc, c'est ça la dépendance. C'est pas qu'ils vont vous faire travailler, mais vous allez avoir un tas de taxes qui vont vous empêcher de vivre. Amarlo Yaakov, Yachol Leolam. Yaakov a demandé à Hachem, est-ce que ce sera vrai éternellement? Amarlo, tu lui as répondu, Altira Avdi Yaakov, Valtechat Israël. On recite le passouk du Navi. Ça veut dire, je te sauverai, même si tu es très loin, et ta descendance aussi, même si ça, dans les pays dont ils vont revenir, c'est-à-dire un peu n'importe où. Par exemple, alors ça dépend comment, en tout cas, ou bien c'est la Gaule et l'Espagne, ou bien, je sais pas, un autre endroit qui s'appelle aussi Magalia, peut-être, je sais pas ce que ça veut dire. Et donc, Veshav Yaakov mi Bavel, Yaakov va revenir de Bavel, Veshakat mi Madaï, et il sera tranquille quand il va revenir de Madaï, Shaanan mi Yavan, aussi de Grèce, Vemacharid mi Edom, il n'y aura rien à craindre, il reviendra d'Edom. Pourquoi? Qui est Sechala? Parce que je vais détruire complètement ces peuples parmi lesquels je t'ai exilé et je t'ai dispersé. Parmi ces peuples du monde, alors ça c'est. Ça a l'air un peu comme un, ici dans Vayetse, c'est comme un cheveu sous la soupe. Comme dans le Midrash qui est sur Parshat Temor, dans le Midrash Rabbah, ça va un peu mieux. De quoi il parle? Il dit ici la chose suivante. Il parle de la mitzvah de Péa. Il parle de la mitzvah qu'il y a quand on moissonne, par exemple, un champ, on doit laisser des coins du champ pour les pauvres. Alors, comme ça, ces peuples-là, qui moissonnent jusqu'au bout, tout pour eux, ils ne laissent rien pour les pauvres, ceux-là, je les détruirai. Aval Israël, Shein, Mechalin et Tzadotéen. Mais les Bnei Israël qui n'épuisent pas complètement leur champ pour eux-mêmes, ils en laissent pour les autres aussi, en laissant ces coins des champs. Toi donc, je te détruirai pas complètement, bien que tu le mérites aussi. Mais je vais t'éprouver dans ce monde-ci, l'épreuve. Bishvil le nakotra me avonotecha le lavo, afin que tu sois nettoyé de toutes tes fautes par rapport à l'Atid Lavo, par rapport au Lamaba. Le Kach Ne'emar Vayachalom. C'est pour ça qu'il a rêvé. C'est-à-dire tout le rêve de Yaakov. D'après ce morceau du Midrash, c'était ça le problème. Voilà, donc. Cette fois-ci, on a, d'une certaine manière, une annonce des épreuves à venir. Une annonce de, par exemple, les autres exils. Et ces exils-là, et toutes les épreuves qui vont nous arriver, ce Midrash dit que ce sont des épreuves qui sont là pour nous nettoyer de nos erreurs. Alors que le galout de Mitzrayim, il n'a rien à voir avec ça. Le galout de Mitzrayim, a priori, on ne sait pas pourquoi il a lieu. Mais ceux qui viennent sont dans le cadre général des épreuves. Alors avant d'essayer de comprendre par nous-mêmes peut-être un peu plus Midrash, on va voir ensemble comment le Maharal, utilise, enfin, étudie ce Midrash. Le Maharal dans Netzach Israël, sur le Kaf, il ramène ce Midrash et il dit que Sod, il explique l'idée de base, le secret de ce Mahamar, de ce Midrash. À Kol Hu, tout ce texte est là pour nous faire savoir, dit Maharal, qui af im ein le Israël olamazé, que bien qu'Israël n'ait pas de olamazé, on n'a rien vraiment dans olamazé, ein nechshav ze chisaron, ça n'est pas un manque. Manque. Qui Hachem, qui, pardon, qui Arba Malchuyot en Keneged Arba Ruchot. Parce que les quatre royaumes en question correspondent aux quatre directions cardinales, nord, sud, est, ouest, comme je l'ai déjà expliqué. Et je l'ai expliqué à de nombreuses reprises. Lama Aumot Mityarsim al-Arbat Zadin. Pourquoi est-ce que les quatre peuples sont reliés avec ces quatre directions? Ve Israël Mityarsim Elanukuda Aemsaït. Et comme toujours dans le schéma du Maharal, Israël est toujours au milieu. Donc on a quatre directions et puis vous avez au centre Israël. Mipnei she'atzad mityaches el hagashmi. Dit l'extérieur, c'est en rapport avec ce qui est matériel. Pourquoi? Shu'mitrachek mina'emsayim. Parce que l'extérieur, par définition, il est éloigné du centre. Il est plutôt dans la marge. Les marges sont matérielles. Asher en lo rochek. Le col d'avoir à cher Yeshlo Rochek ou Middame El Agashmi. Tout ce qui est à distance de la source, ben ça devient matériel. Parce que la définition du matériel, c'est d'être éloigné du centre. Bon, c'est toujours des considérations un peu géométriques, un peu qui se ressemblent un peu à Pythagore et des choses comme ça. Madrigat est donc le niveau des Oumot. Ils sont des peuples qui sont donc très dans le matériel. Ou le Fichach Amalchuyotem Arba. C'est pour ça qu'il y en a quatre, parce que dans le matériel, la matière, ça s'étend dans tout le plan, quoi, si vous voulez. Aval Israël, chez Eshlaem Madrega Bilti Gashmit, mais Israël, c'est à un niveau spirituel. Donc, il correspond au milieu, au centre. Puisque par définition, le centre, il n'est pas éloigné, puisqu'il est le centre. Le Kacher, voilà, donc ça c'est l'idée, ça vient nous enseigner ça. Ça vient nous enseigner, dit Maharal, que effectivement le clan Israël, il n'a rien à voir avec le monde matériel, en fait. Le Kacher ra Yaakov aliot amalchuyot. Et quand Yaakov a vu cette image des royaumes qui montent, yada shemem shaltam yeshlem. Il savait que ça voulait dire que leur pouvoir serait limité. Il y aura une fin. Parce que c'est la définition, le matériel, il est naturellement limité. Yakadosh Baruch Hu a dit à Yaakov, Afata, allez, toi aussi monte. Pourquoi? Ki malat Yaakov, comme Moshe Amarnu, mechulat minamalchuyot. Donc, comme on vient de dire, Yaakov, il est radicalement différent des quatre royaumes. Yesh le Yaakov ma'ala nivdelet, parce qu'il a une caractéristique spécifique. Pour le cas Homer, le Akadosh Baruch Hu allait. Il y a un safek qui a lié à l'autre. C'est clair que de monter, ça veut dire grandir. Zéhu inyan ha'aliyah. Shaya olé besoulam ha'shamayma. On monte avec le ciel, avec l'échelle, on monte jusqu'au ciel. Le cas Homer allait. Shelo yu ha'omot mishtabdim bi'Israël. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il monte? Pour que les autres ne puissent pas le dominer, puisque lui, il aura fait usage et il se trouvera à un niveau plus élevé qu'eux, donc ils ne pourront pas le dominer. Et il lui a dit, si tu montes, n'aie pas peur, tu ne vas pas retomber. Et pourquoi? Pourquoi c'est pas comme pourquoi les autres, les royaumes tombent? Parce que c'est eux, ils sont matériels. Et par définition, c'est jamais éternel. Ça, c'est spécifique à ce qui est matériel. Mais Jacob, il pouvait monter sans risquer de Hachem lui a garanti, sans qu'il risque de retomber. En fait, d'abord chez vous, Nivdal, quelque chose qui est séparé, qui est différent. Kolacher ou olé, ou mikarev Hashem idbarach, kacher ou mitale. Donc quand il monte, il s'approche d'Hashem. Le kach amarlo à Kadosh Baruch Hu, afata olé. C'est pour ça qu'Hashem lui a dit, toi aussi monte. Pourquoi il faut qu'il monte? Parce qu'il n'est pas tellement, il n'est pas tellement grand, Yaakov, maintenant, à ce moment-là. Il ne faut pas oublier, Yaakov a ce rêve-là, il est en train de fuir de chez lui, il n'a encore rien fait. Il a pas de famille, il possède rien du tout, il est en fuite devant son frère qui veut le tuer. Il sauf ou Adam. Finalement, c'est jamais qu'un homme. Il y a quand même quelque chose de des choses matérielles chez chez Yaakov. Le car Lohala. Et c'est pour ça, c'est son côté matériel qui l'a empêché de monter. Parce que monter pour le côté matériel, ça veut dire aller vers la fin, aller vers la disparition. Mais Yaakov, lui, s'il était monté, alors cette montée aurait fait en sorte qu'il devienne Davouk d'Hachem. Il colle littéralement, il se rapproche le plus possible d'Hachem. S'il était monté, il aurait eu cette Dvekout d'Hachem, il aurait collé à Hachem. Et donc, il serait plus jamais redescendu. Et c'est ce qu'il a dit, Ilu he manta ve alista. Si tu m'avais fait confiance et tu étais monté. C'est-à-dire, Amaamin be'echad davukbo. Celui qui a confiance en celui qui est echad, en Hachem, il est davuk. Le gamre. Kasher maamin bo. Dans la mesure exacte où il a confiance en lui. Et donc, c'est clair qu'il ne va plus redescendre. Et parce que tu m'as pas fait confiance, ça veut dire tu n'as pas en toi ce désir encore, ou ce désir de Dvekut à Hachem. Parce qu'Hachem lui-même, il aurait, si Yaakov s'était approché comme ça de lui, il aurait complété Yaakov. Aval kaasher lo alita, mais puisque tu n'es pas monté, alors tu n'es pas Davouk. Donc tu es séparé de la cause, séparé d'Hachem. Et pour cette raison, les peuples peuvent te réduire en esclavage, ils peuvent te dominer. Mais ça n'aurait pas été le cas, le Maharal est un peu lourd là-dessus, mais si tu avais écouté, si tu étais monté, alors tu aurais été Davouk et ils n'auraient rien pu faire. Et donc maintenant que tu n'es pas monté, Yahemuna bo itbarach ou dvekut gamur, comme on a vu, le emuna d'Hachem, c'est un état de dvekut, de coller à Hachem. Et puisque toi tu l'as pas, tu n'as pas cru, fais confiance. Yesh le banecha pirud min Hachem itbarach. Alors tes enfants, ils sont séparés d'Hachem. Et par conséquent, ils sont susceptibles d'être réduits en esclavage.
Excusez-moi,
C'est ça que...
j'ai pas compris. Si les autres nations montaient à l'échelle, ça veut dire qu'ils étaient plus collés à Hachem que Yaakov?
Non, ils n'étaient pas plus collés, mais ils étaient au-dessus de lui. Parce que lui, étant donné que concrètement, il est plus petit qu'eux, il est en bas, eux, ils sont montés. Et d'être en bas, ça veut dire ne pas être Davouk. Ça veut dire, ça va ensemble. Si tu restes en bas, alors il te manque quelque chose. Donc Hachem ne s'occupe pas de toi, si on peut parler comme ça, de façon complète, puisque tu ne te mets pas dans cette relation avec lui. Alors, ça laisse une place pour les goïms pendant un certain temps, quand eux sont tout en haut, chacun dans sa trajectoire, ils peuvent te dominer. Et la domination n'est pas terrible, hein. C'est une domination purement matérielle sous forme d'impôts et de taxes de tous ordres.
Mais ça veut dire que les autres nations ont cherché à se coller à Hachem ou bien c'est par le fait
Non,
que
les autres, ils
Yaakov
montent.
est resté en
Eux,
bas?
ils ont une. Bien sûr que c'est. Quand tu montes, tu te rapproches d'Hachem. Mais eux, ils n'arrivent pas à un degré de dvekout parce qu'ils n'ont pas en eux cette intériorité qui recherche la dvekout. Pour arriver à la dvekout, il faut que ça soit non seulement concrètement, physiquement s'approcher, mais il faut qu'il y ait un désir. Ils n'ont pas ce désir-là.
D'accord, merci.
Ça doit agir quand même un peu, ça lui dégage de toute façon. Et c'est pour ça que ça leur permet de dominer. Il n'est pas monté parce qu'il n'était pas capable de monter. Il n'était pas, il n'en est pas là encore. Il va arriver à ce niveau-là, mais il n'en est pas encore là. Il ne pouvait pas monter. Pouvait pas. Il ne pouvait pas. Ce n'est pas tout à fait juste qu'il ne pouvait pas. Il aurait dû monter parce qu'Hachem lui dit de monter. C'est toujours ce même problème que même les Umot HaOlam, ils ont par rapport à la Torah. Tu nous dis les choses, mais c'est impossible, on ne peut pas. Non, mais si c'est moi qui vous le dis, vous devez y aller. Si moi je vous le dis, ça veut dire que vous pouvez y aller. C'est vrai qu'à vue humaine, vous ne pouvez pas. C'est vrai qu'à vue humaine, tu ne peux pas monter. Tu ne te sens pas intérieurement, etc. Mais c'est moi qui te le dis. Et moi, je suis ton créateur. Si moi je te dis que tu peux, ça veut dire, ou bien ça veut dire que tu peux. Peut-être parce que je vais t'aider, mais de toute manière, en tout cas, tu pourras. Ouais, mais voilà, on voit pas du tout de. Voilà. 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 L'idée d'un terme, d'une fin, etc., c'est quelque chose qui a à voir avec, à voir avec le côté matériel des choses. En fait, c'est une caractéristique de ce qui est matériel que d'avoir une fin, d'avoir un commencement et une fin, si vous voulez. Quelque part, ce qu'Hachem proposait à Yaakov de ne pas redescendre, ça voulait dire on passe à une forme d'éternité.
Et je voulais demander. Et quelle place ont les galouillotes qui étaient des persécutions? Là, on parle des impôts et des choses qu'on peut supporter, même dans le galout. Mais et le maral, il connaît ce qui s'est passé jusqu'à là, oui. Est-ce que le maral, il est après Xerot Arvetat?
Il dit que l'argent, c'est. Semble-t-il, oui. Enfin, c'est pas évident, il y a quand même entendu pas mal de choses, certainement. Mais le Maharal, il parle pas des événements tels qu'ils ont vécu, il pense que c'est ça que Peut-être que c'est aussi, il y a aussi probablement une symbolique dans le fait d'avoir des impôts, des taxes foncières et des impôts par tête de pipe. Quelque part, ça veut dire qu'on te limite un peu partout, quoi. Alors, c'est pour ça qu'il y a ce lachon, ilu he manta vealita. Si tu m'avais fait confiance et tu étais monté. Ça, c'est ce qu'on vient de voir maintenant. Alors, il y a encore, il faut comprendre en fait, c'est quand même la fin, cette histoire des péotes, quoi. De la PA, qu'est-ce que ça a à voir? Ça a l'air, ça a vraiment l'air, ça tombe du ciel, quoi. Alors, il dit, ce qu'on reproche, en fait, alors que ils n'ont pas de mitzvah, les goyim, de laisser des péotes. Ahumot shehem mechalim psalotehen otam e'eseh chala, ça veut dire ces gens, puisque eux, ils détruisent, enfin, c'est un jeu, c'est sur les mots, mechalin, c'est-à-dire, c'est la chant de colle, c'est la destruction totale de leur champ, au sens ils prennent tout dans leur champ, ils ne laissent rien pour les pauvres. Alors moi non plus, je leur laisserai rien, quoi. Quelque part, je vais les détruire aussi. Mais Israël qui, eux, laissent, eux, ils ne détruisent, ils prennent pas tout dans les champs. Alors il dit, Advarim ha'elu gdolim me'od, kasher tavin advarim, asher bi'arnu lecha lemala. Si tu comprends ce que j'ai expliqué plus haut, on n'en a pas parlé là. Israël enam ba'alei hashlama mitzad atzmam, comme chez ha'umot. Les bnei Israël, c'est pas des, ils sont pas en train de terminer les choses complètement, de prendre, oui, de faire tout, comme le sont les umot ha'olam. Le fichar siva Hashem mitbarach Israël mitzvah zot lo techale pe'atzadcha. Tu ne détruira pas, enfin tu ne moissonneras pas la totalité du coin de tes champs. Chez Maharshi Israël, enam ba'alei tachlit, comme les bnei Israël, ils vont pas jusqu'au bout. Noagim bemidazot, alors ils vont effectivement, ils ont cette mitzvah de pas aller jusqu'au bout et prendre tout ce que le champ peut donner. Si va laem, a péa l'anim, la tête péa l'anim. Pour ça qu'Hachem a ordonné qu'on donne les coins des champs aux pauvres. Mais c'est nerchav qui est ilou, a péa chez lahem. Au point qu'on fait comme si ce coin du champ, il leur appartient et que si jamais le propriétaire, il voulait moissonner la totalité du champ, il serait un voleur, parce qu'il est en train de voler la part des pauvres. Ça veut dire que c'est un tachlit shelahem. Ça leur appartient complètement. Midrash, matanot celui qui donne les cadeaux qu'il faut donner aux pauvres, c'est comme s'il avait construit un autel et qu'il avait approché un corban sur cet autel. Donc ça, je l'ai expliqué dans Parchat Emor dans mon commentaire sur la Torah, qui un autel matanot aniyim davka keilu notno elashemitzbar, parce que c'est comme, donc si on dit que c'est un corban, ça veut dire que c'est comme si on le donnait à HM. Ça veut dire que les bnei Israël, ils donnent leur tachlit, c'est-à-dire le but ultime, ils le donnent à HM. Parce que c'est HM qui est le tachlit des bnei Israël. Pardon? Le but ultime, oui. Tachlit, c'est ouais, finalement.
Pourquoi le monde a été créé.
Oui, ben, le monde a été créé pour. Oui, c'est aussi le but du monde. Le Tachlit, c'est le but ultime des choses. La PA, c'est le, en soi, c'est quelque chose on a donné aux pauvres la totalité, un morceau qui leur appartient entièrement. J'étais propriétaire de tout le champ, et maintenant, ce coin de mon champ, il m'appartient plus du tout, il appartient aux pauvres. Alors, la raison pour laquelle cette histoire des péotes a à voir avec à cause de ça, il va détruire le peuple. Pourquoi? C'est parce que le ce passouk de l'Otechale Peat Sotra, il est écrit juste avant Rosh Hashanah. Il est écrit juste avant qu'on parle de Rosh Hashanah, du Yom HaDin, donc, dans la Torah. On dit qu'il Al Tiyu Yirim Yom HaDin. N'ayez pas peur du jour de jugement, chez Yechas Veshalom Kilayon Beisraël, en pensant qu'éventuellement ça pourrait signifier la destruction d'Israël, Zeheno. Tacher Israël Enam Mechalim Sadotehem, Notnim HaPeah Sheu HaTachlit El Hashem Itbarach, comme il donne l'essentiel, le fondamental, enfin, le but ultime à Hashem. Le rôde qui tachlitan chez Israël, où est la Shemit Bara? Il a comprendre que le but du clan Israël, c'est pas quelque chose pour le clan Israël, mais c'est pour Hachem. Car, Moré, etzem Hachem, chez Nikru Israël, parce que c'est ce que lit leur nom. Il y a le Mokel à la fin du nom d'Israël, le Roth qui s'offre à Vetachlit Shelahem ou El Hashem Idbar. Que le Tachlit, la fin des fins, c'est pour Hashem. Donc, c'est clair qu'Akadosh Baruch Hu va nous punir, il va nous éprouver, mais il ne nous détruit pas. Oui, un instant. Oui. Oui. C'est un des grands problèmes de la relation d'Israël avec Ishmaël. On avait l'impression de. Alors, eux, bon, ils le font, eux, c'est pas obligatoirement ce qu'ils font. Ils devraient le faire, ils auraient dû, puisqu'ils sont les enfants d'Abraham. Mais eux, ils pensent que ils savent mieux qu'Hachem. Enfin, ils disent que tout ce qu'ils font, c'est pour Hachem. Ils le disent. C'est pas vrai, mais c'est ce qu'ils disent. Donc ça, c'est le Maharal sur ce Midrash. Donc le Maharal, il explique très clairement que c'était une erreur de la part de Yaakov, évidemment, ça c'est déjà le Midrash qui le dit, de ne pas être monté, mais que d'une certaine manière, il n'était pas encore arrivé à son... Il n'était pas capable de le faire. Et du coup, il lui manquait de Dvekout. Et donc, les conséquences, c'est que les descendants de Yaakov, ils vont passer par ces galouillottes dans les quatre royaumes.
Comme si c'était conditionné pour pouvoir faire des choses, alors ici, par rapport à Théa,
la même chose ou ça c'est différent?
Donc, je pense, Maaser, c'est. Non, c'est pas, il n'y a pas cette idée de d'extrémité, de tachlit dans le Maaser. Un Maaser, il faut donner à Hachem, c'est une participation en quelque sorte. Mais ça n'est pas. C'est pas comme les PA. La PA par ex. Par définition, comme c'est aller au bout du champ, c'est une fin, ça a à voir avec la notion de tachlit, justement. Parce que le maaser, il dit seulement que c'est un dixième, on ne te dit pas où tu le prends, le maaser, tu le prends n'importe où. En Eretz Israël, Midrabanan, oui, bien sûr. Le Rav Dessler, il ramène ce Maharal. Je vais le redire avec le, dans le Moussar de Rav Dessler. Il dit, bon, finalement, Yaakov, il n'est pas monté. Et donc, la question qui se pose, comment se fait-il que Yaakov ne fasse pas ce qu'Hachem lui demande de faire? Alors, il dit, le Maharal explique que à ce moment-là, vous savez, j'ai mis l'accent quand on a lu le Midrash, sur, à ce moment-là, au moment où il rêve, au moment où il est en train de partir de chez lui pour aller chez Lavan, Adayenu Hashlema. Il lui manque quelque chose. Il n'est pas encore au niveau de la dvekout véritable. Mais c'est seulement quand on a atteint la dvekout complète, à ce moment-là, il peut plus y avoir de séparation et puis il peut pas y avoir, il peut plus y avoir séparation d'avec celui auquel on est collé littéralement et il n'y a pas de chute, on retombe pas en arrière. Quand Hachem lui dit, tu retomberas pas, bah, lui, Jacob, il n'est pas au niveau de ne pas retomber, quoi. C'est la Kavana du Midrash. Lo'emin, Belo'ala. Il n'a pas eu confiance, il n'est pas monté. C'est-à-dire, c'était pas mûr, en quelque sorte. Ça veut donc dire que, au fond de lui-même, il ne pouvait pas éviter le passage par les galouillottes. Il ne pouvait pas rayonner de telle sorte que ce soit tellement clair que, que ça rejaillisse sur toutes les générations et qu'il ne soit pas. De même que lui, il n'a pas été réduit en esclavage, Yaakov, de la même manière, ses enfants ne seront pas non plus réduits en esclavage. Ça rayonnerait suffisamment fort. Donc son idée, c'est un peu psychologique, quoi. C'est que si on ne ressent pas la capacité d'y aller, alors, quelque part, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment mûr et que c'est pas encore le moment d'y aller. Quand est-ce que ce sera le moment pour Jacob? C'est que quand il va revenir de chez Laban, quand il rentre de Charan en Eretz Israël, là-bas c'est marqué, Vayavo Yaakov Shalem. Alors, ça veut dire qu'il est arrivé dans la ville de Shalem. La ville de Shalem, c'est la ville dont Shem était le Kohen Gadol, donc l'histoire avec Yaakov, avec Abraham Avinu. Et ça va donner la moitié du nom de Yerushalayim. C'est Yeru et Shalem. Ouais. Là-bas, à ce moment-là, il est arrivé à la Shlemout. Il est arrivé dans une ville qui s'appelle Shalem, mais lui aussi est arrivé à un degré de shlemout, de être complet. Seulement, c'est trop tard. Parce que ça, c'est déjà après qu'il se soit prosterné devant et qu'il ait donné tellement de pouvoir à Esav. Donc, il a déjà donné le pouvoir du galout sur lui, ce descendant, à Esav. C'est pour ça que c'est trop tard. Il aura atteint cette shlemout, mais ça ne servira pas pour ses enfants. Ça ne va pas permettre d'éviter les galouillottes. Alors, Lesler, il dit, ça a été dit, on parle ici de niveau très élevé, concerne Yaakov Avinu. Argam Anu Bedargoteinu Ashvelot Hayavin Lilmod Bishvina Vodateinu Gilolanu Chazal. Nous, on est obligés d'apprendre de ce que les Chazal nous ont dit ici dans ce contexte pour notre avoda personnelle en quelque sorte. C'est-à-dire que si nous ne voyons pas de fruits dans notre travail, alors il faut savoir que les chizukim vont pas tenir le coup. Ça sert à rien de faire des séances spéciales, etc. Ou les itororut shelanu, en totsaot neutot bepoal. Ça marchera pas. Alishleotanu, Alishleotanu, il faut pas se tromper, se leurrer. Ayetserara, kilu, achisaron beyocholet, ou bekoar shelanu. Le Yetserara, il va nous raconter que c'est nous qui ne sommes pas à la hauteur, etc. Et la neda, shelozu asiba, il faut savoir que c'est pas ça la faute, c'est pas ça le problème. Ashoef elatov, bechol kocho, celui qui veut le bien de toutes ses forces, il pensera, il viendra, si vraiment il le pense, alors il va penser qu'il y arrivera. Et du coup, il va se renforcer, il va marcher, et ça va marcher. Finalement, il va s'arranger dans le domaine de la Torah et de la Yira. Et d'un autre côté, Amargish, celui qui sent, ilu en biyado hayocholet, il sent, j'ai pas la force. Alav la'daat shechaser be'amitat shi'ifato. C'est assez fort, ce qu'il a. Il dit, ça veut dire que tu ne désires pas vraiment. Il faut renforcer son désir. Et son désir de coller à ce niveau-là. Donc par le limoud du moussar, ou bien par la prière, et par la prière pour qu'Hachem l'aide. Et et quand vraiment il voudra sincèrement, complètement obtenir ça, il va sentir qu'il est possible de faire. Et donc il va pouvoir monter. Ça va réussir. Alors là, c'est la leçon que Rav Dessler prend, enfin, ou donne au Moussard. Il dit, le Yetzirah, il va te dire que si tu penses que tu n'y arriveras pas, c'est que tu es vraiment faible. Rav Dessler, il dit, c'est pas vrai. Alors ça se discute, en fait, parce que vous en pensez. lui dit que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je désire pas vraiment. Si vraiment je voulais quelque chose, vraiment au fond de moi-même, alors j'aurais le sentiment que je pourrais y arriver. Et parce que j'ai ce fort de ce sentiment que je peux y arriver, alors je vais y arriver. Dit dans le négatif aussi. J'ai le sentiment que je ne peux pas y arriver, ça veut dire, dit-il, que mon désir n'est pas vraiment, n'est pas aussi fort que je le dis, que je le pense, pour obtenir ce résultat. Et il faut travailler sur le désir, et pas travailler sur inventer, se faire des crises au pied, mais des trucs comme ça ne va pas marcher. Travailler sur son désir. Travailler sur est-ce que vraiment je veux ça? Est-ce que je suis pas en train de me raconter que je veux ça parce que j'ai entendu que c'était bien, alors je le veux. Non, mais est-ce que tu le veux vraiment? Alors je sais pas, c'est ce que vous en pensez. Lui, il pense que c'est ça le grand problème. Le problème, c'est un problème de désir. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Après, la question est-ce que je me donne les moyens de le faire? Mais bon, ça dépend à quel niveau tu entends volonté, mais c'est ça qu'il s'agit. Il s'agit de est-ce que je ouais, fond de moi-même, je veux vraiment ça?
C'est la motivation, je suis vraiment motivée.
Oui, mais motivé, c'est par quoi? La motivation, c'est la vraie motivation, elle peut être extérieure, mais ce n'est pas un vrai désir.
Il y a une motivation extérieure, mais quand je la mienne,
Oui, alors dans le
c'est ma
problème,
motivation.
j'ai l'impression que quand cette motivation, elle devient mienne, alors ça devient mon désir. C'est mon désir qui est la vraie motivation.
Et donc, pour ce qui concerne l'accord, c'est un désir qui aurait dû avoir lieu presque immédiatement, puisque une fois que le temps a passé et que il est arrivé à maturité et que ce désir il aurait pu effectivement se manifester de façon effective, c'est beaucoup trop tard. Donc,
Trop tard, c'est ce désir-là maintenant. Il faut aussi une conjonction de situations. Il faut avoir le désir au moment où c'était possible.
le désir accompli, il progresse graduellement dans le temps. On ne peut pas dire que c'est vraiment quelque chose qui est en construction, qui est en devenir jusqu'à ce
OK, alors c'était pas assez fort. C'est pas
moment-là.
assez fort.
Parce qu'il est abouti. Quand ce désir est abouti en tant que désir,
Alors,
c'est son
il
énergie.
crée en nous cette idée, oui, je vais y arriver. Non, mais il ne l'avait pas, puisque s'il l'avait eu, là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que, bon, d'après Rav Dessler, en tout cas, il n'avait pas un désir suffisamment fort pour de s'approcher d'Hachem de telle sorte que ça rayonne tellement fort que ça rayonne aussi sur ses descendants. Peut-être on peut dire qu'il voulait bien lui s'approcher, mais ça donnait pas un rayonnement qui permettrait d'éviter les galouillottes, quoi.
Le désir à ce point devient un impératif accepté, donc il ne peut pas s'y faire.
Oui.
Mais puisqu'il est parvenu, mais trop tard, ça veut dire qu'il avait quand même trop en puissance. Ce vrai désir.
Et qu'est-ce que ça change? Il l'avait seulement en puissance et qu'on avait besoin qu'il l'ait concrètement.
Ça aurait pu
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est si lui, il n'avait pas ce désir tellement fort. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit, tu peux y aller? Je vais t'aider.
C'est parce que justement.
On peut penser que Jacob, il s'est dit, mais moi, je veux y aller. Si j'y vais par mes propres moyens, quoi. C'est un peu compliqué parce que si on lit comme Rav Dessler, alors on a un peu l'impression que ce qu'Hachem lui demandait, c'est t'es pas à la hauteur, t'as pas un désir assez fort, mais moi je te dis qu'avec moi tu peux y arriver. C'est comme un parent qui dira à son enfant, écoute, moi je vais te porterai une partie du chemin, quoi. Tu vas y arriver, je vais te porter une partie du chemin.
N'est-ce pas la finalité de savoir qu'Hachem nous porte, Hachem nous écoute?
Alors, maintenant, la question, c'est, qu'est-ce que ça veut dire finalement, il n'a pas voulu? Il y a deux possibilités. Ou il n'a pas voulu, son désir n'était pas assez fort, effectivement. Et du coup, il n'était même pas capable de saisir la proposition d'Hachem. Ou bien alors, il sentait que son désir n'était pas tellement fort, il savait que s'il acceptait la proposition d'Hachem, ça allait marcher quand même, mais il voulait le faire tout seul. C'est-à-dire qu'il voulait faire les choses tout seul. Il ne voulait pas obligatoirement, peut-être qu'il a pensé, a priori, quand il a rêvé, il a tout l'enseignement de son père, il a passé 14 ans à la yeshiva, maintenant il est en chemin pour aller chez Laban. Peut-être qu'il pense que voilà, j'ai déjà été aidé jusqu'à présent. Maintenant, je suis sur un chemin où je vais devoir faire les choses tout seul. Même ça, c'est même pas complet puisqu'il est sur un chemin parce que ses parents lui ont dit d'aller là-bas. Il est encore en train d'obéir à ses parents. Il n'y a pas d'initiative personnelle là-dedans. La première fois qu'il va prendre une initiative personnelle, c'est essentiellement quand il va, je sais pas, éventuellement dans l'histoire des matelotes, l'histoire des troupeaux, là, ou bien alors quand il va décider de partir. Mais là aussi, c'est Hachem qui lui parle. Mais donc ça, disons que c'est personnel. Mais quand Hachem te parle, ça veut dire que c'est comme le personnel, non? C'est Hachem qui le parle. Pourquoi il ne l'a pas fait? C'est ça, ça reste un peu compliqué quand même. Pourquoi il ne l'a pas fait? Hachem lui dit, tu peux y aller, tu ne tomberas pas. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Hachem lui a promis qu'il ne va pas tomber. Alors, qu'est-ce que. Oui, pourquoi il va pas? Parce que Hachem va le porter.
La parole d'Hachem, parce que si j'avais dit que j'étais fait, j'aurais volé aussi. C'est devenu lui. C'est qu'il y a encore un espace. Qu'est-ce qu'on voulait, mais justement, il n'était pas mieux à ce moment-là. Il a eu peur, il a eu l'envie de faire pas le même, tout ça. Ça dénote, me semble-t-il, qu'il n'est pas. Il n'est pas au niveau dans lequel, il n'est pas conscient du niveau dans lequel Hachem l'a mis. Donc il ne le prend pas ce niveau qu'il n'a pas.
Le problème, c'est qu'est-ce que c'est exactement cette histoire de rêver? Il a osé se coucher pour dormir, qu'il n'avait pas fait jusqu'alors. Jusqu'alors, quand il devait dormir, il dormait sur sa chaise, sur son banc, sur son pupitre, etc. Là, pour la première fois, dit Rashi, il s'est couché pour dormir.
Mais entre-temps, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est arrivé, je pense. Il en va peut-être.
Non, maintenant il a rêvé.
Oui, non, mais il s'est couché pour dormir. Il dormait sur son banc d'école. avec les Chiva, il
Et
était
parce que personne ne peut vivre sans dormir, alors il dormait, mais il voulait jamais s'installer pour dormir. Il dormait quand il tombait de sommeil. Et ici, alors ce qui s'est passé ici, c'est que le soleil s'est couché pour lui, quoi. Est-ce qu'il a compris que le soleil s'est couché pour lui, ou est-ce que il va dire ça doit être la nuit, je sais pas comment. Le soleil s'est jamais couché pour moi, donc je peux pas vous dire ce que j'aurais pensé. Mais
Pourquoi le soleil se couchait aussi avant? Si,
oui, mais bien sûr, mais on nous dit que le soleil s'est couché pour lui. Est-ce que lui, il a senti que le soleil se couchait pour lui? C'est pour ça il est sorti. Alors, d'abord, premièrement, pourquoi tout à coup il se couche? Je veux dire, il n'avait pas de chaise pour se, il n'y a pas de chaise pour se s'asseoir et dormir sur son banc, il n'y a pas de banc.
c'est comme s'il normalise quelque chose. Il rentre maintenant dans le coma. Ah, dormir sur son banc d'école, c'est pas très.
Enfin, il a fait ça pendant 14 ans, plus je ne sais pas combien.
On aurait pu penser que si pendant 14 ans il a dormi sur son banc, c'était devenu une habitude. Il aurait pu bah, changer cette habitude. Pourquoi l'a-t-il changé? Il n'y avait pas de chance. Mais ça ne se voit pas très mal. Il y a plein de natures. Il y a plein de natures. Si on nous le signale, c'est important quand même. Il a dû mettre. Pourquoi il n'a pas. Pourquoi on nous le dit, j'entends, il n'a pas fait comme d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne fasse pas comme d'habitude? C'est lui qui a eu un changement, c'est pas normal.
C'est ça, on nous apprend maintenant que pendant 14 ans, il a tellement étudié le revenu qu'il n'est jamais installé pour le revenu.
Est-ce qu'il n'est pas en train de modifier quelque chose dans sa relation à Hachette à ce moment-là? Parce que jusqu'à présent, il combattait son.
Ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que il est en chemin et tout à coup il s'aperçoit, il dit, mais j'ai passé là où mes ancêtres ont prié, je ne me suis pas arrêté pour prier. Et donc il dit, c'est pas possible, je retourne. Et quand il retourne, il a pris de sa tabérère, ça veut dire en un instant il se retrouve sur place. Ça n'a pas pris de temps. Pardon? Et à ce moment-là, le soleil se couche, la nuit tombe. Est-ce qu'il a compris que c'était anormal que la nuit tombe si rapidement, que peut-être il avait quand même, il savait, je pense qu'il était habitué à ce qu'il y ait tant et tant d'heures de jour. Alors est-ce qu'à cause de la cuissette derrière, il est décalé dans son horaire personnel, dans son rythme personnel, et du coup, ça l'a pas frappé que le soleil s'est couché un peu trop tôt. Et d'ailleurs, pourquoi le soleil s'est couché tôt? Parce que sinon, il serait reparti. Il a prié, il s'en va. Oui, non, mais ça, bon. Justement, c'est peut-être ça suffit pour le troubler et que du coup il n'a pas fait attention au fait que la journée était un peu trop courte. Ça, je sais pas, j'en sais rien.
Et qu'est-ce que ça représente de se coucher par rapport à
Bon,
tout?
justement, c'est le problème. Justement, on voit très bien que les derniers mots du Midrash, c'est pour ça qu'il est arrivé. C'est important qu'il rêve. Il fallait qu'il ose rêver. Et semble-t-il, je ne sais pas comment ça se passe, quand il dormait comme ça, est-ce qu'il rêvait pas? Pourquoi on fait tout un plat du fait qu'il a rêvé cette fois-ci? C'est parce que dans son rêve, il y avait l'échelle. Il avait des autres rêves je sais pas, sur d'autres choses quand il était à la Yeshiva ou quand il était chez lui. Et là, tout à coup, il fait un rêve étrange. Quelque part, il y a Hachem qui va discuter avec lui. Ça, il l'a peut-être encore jamais eu.
Ça présente sa relation à Hachem, c'est une relation mettent en place par un hypnose et un sommeil très léger intermittent. Mais à ce moment-là, c'est un sommeil profond qui lui permet d'approcher la chaîne par un parallèle prophétique.
Oui, bon, ça c'est l'analyse du sommeil. Dans quelle mesure est-ce qu'il est volontaire pour ce... On dit, voilà, il a rêvé, il a osé rêver, si on peut parler comme ça.
Donc, c'est volontaire, ça veut dire qu'il a accompagné son rituel d'endormissement, de couchage, pour recevoir quelque chose.
Non, mais
C'est ça,
justement,
la
quand on
raison.
dit qu'il a rêvé, a priori, il a pas... je pense que tout le monde rêve, donc
Mais
je pense qu'il a
la
rêvé
seule
comme tout le
raison.
monde, mais il avait des rêves de monsieur peut-être comme tout le monde dans sa jeunesse, et que maintenant, dans son voyage, comme justement il est en train de faire quelque chose de très important, il est en chemin pour se construire en fait. Il va se marier, il va avoir des enfants. Il va devenir riche, etc. Et il va devoir affronter Laban, ensuite Yaakov, Esav. Donc, bon.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que puisqu'il est conscient qu'il est en train de se construire, que c'est un, comme c'était une phase charnière, et qu'à ce moment-là, les signes qu'Hachem lui a envoyés, c'est-à-dire le chemin plus la nuit, ça fait que il s'installe, ce n'est pas qu'il se met sur le bord de la table, c'est que ce soit, il s'installe pour recevoir la parole d'Hachem. Il attendait, il sait qu'Hachem lui communique des choses. Bon, vous avez le rêve des prophètes, c'est dans le rêve. Donc vous devez le savoir, ça.
Je ne peux pas répondre, je ne sais pas.
Parce que d'un côté, on dit qu'il comment est-ce que je peux avoir passé près de la robe aux anciens conflits et ne pas avoir prié. Et de l'autre part, quand il se réveille, il dit, est-ce que c'est possible? Il avait la chaîne de cette voie et je ne le savais pas. Et il savait bien, c'est pour ça qu'il avait tout le temps.
Non, ils savaient qu'ils ont prié, ça ne veut pas encore dire que c'est Shara.
Le fait qu'ils ont prié, c'est une indication stable. Le chemin d'un venu, peut-être qu'elle n'est pas restée. On prie le final bien, moi j'espère, mais elle reste pas d'un endroit parce qu'il s'enfuit parce qu'il est en danger de mort. Il revient pour prier au même endroit où ses ancêtres ont prié. C'est-à-dire que bon, c'est hyper important d'aller prier là-bas. Je pense que c'est un endroit tout à fait particulier. Alors c'est quand même étonnant qu'il soit tellement étonné
Non, mais
qu'il se connaît. Puisque c'est la première fois que Hachem s'adresse à lui directement au travers d'un rêve, il a le droit de se poser des questions, de savoir si c'est vrai ou pas. Et de ne pas adhérer immédiatement au fait que c'est la parole d'Hachem et qu'il faut la suivre directement. Tout un chacun se poserait la question, mais
Je ne pense
est-ce
pas qu'il y a un
que...
doute sur le sujet ou pas. Je pense
Pardon?
pas que c'est un... Moi, je ne crois
Ah,
pas
c'est pas
qu'il
un doute.
y a un doute quelconque là-dessus.
Ah.
Simplement, il n'a pas fait, d'ailleurs. D'une certaine manière, Hachem lui dit, t'aurais dit, parce que ben, il y a des conséquences au fait que tu ne l'as pas fait. Tu n'es pas monté, oui. Oui, non, le rêve, c'est pas lui qui a... Il n'a pas installé dans son rêve l'échelle, etc.
Non,
Il n'est
mais il
pas
a le
habitué
droit.
à cette parole directe dans le rêve. Tant qu'il est réveillé, il fait des insomnies, il dort pas, il lutte, il est dans le, il est aussi dans le matériel, tandis que là, il se met à dormir. Et il y a son âme qui est directement monte vers Hachem et il n'est pas habitué, je pense, à se laisser aller, à se laisser porter dans, comme on dit, sur les ailes d'Hachem, et que et donc il a une retenue. Il a une retenue et il se met en retrait en se disant, c'est pas possible, c'est pas pour moi, c'est pas
Voilà,
moi.
exactement, je suis d'accord. C'est pas si évident que ça. La première fois qu'Hachem s'adresse à lui-même, s'il sait que c'est au travers d'un rêve, donc comme tous les prophètes, et qui plus est, sur un rêve aussi important. La preuve, c'est que quand Yosef va avoir ses rêves, eh bien, ils vont être mis. Enfin, on a toujours un doute. C'est difficile d'adhérer
Le doute, c'est que là-bas, on ne sait
immédiatement.
pas exactement. Là-bas, Hachem lui a pas parlé à Yosef.
Non, mais il y a toujours la. D'accord, mais il y a toujours la distance qui nous fait dire, mais entre guillemets, excuse-moi, est-ce que j'ai pas rêvé?
C'est un président, il a une naissance, il a un destin, il a été élevé dans un. C'est pas. Je veux dire, moi, je vais là, de moi, mais lui, quand on dit un halal de l'île, ça t'applique aussi un halal de l'île.
Oui, bien sûr. Oui.
On dit qu'il y a des halal de l'île dans
En
la
halam
parole.
bilum. Vois pas, il y a, autour de la nevoua peut être un petit morceau, et il y a d'autres choses qui sont d'entourage, éventuellement. De quoi? C'est pas une Torah?
On connaît seulement la Torah.
Et on, parce qu'on ne nous a pas raconté la suite. D'ailleurs, dans ce rêve, on te dit ça. Bon, il y a peut-être d'autres choses qui.
Donc là, on est en train de dire que dans ce miracle, d'un seul coup, il y a comme une autre, et d'un seul coup, on a fini quoi. Alors que quelque part, il y a la promesse qui a été faite à Abraham avant. Comment on peut dire avec ce miracle par rapport à ça?
C'est pour ça que je pense que le galout de Mitzrayim, ce n'était pas du même ordre. Les galouillotes auxquelles on va échapper ou on n'échappe pas, justement, c'est seulement les quatre galouillotes, ce n'est pas Mitzrayim. Mitzrayim aurait eu lieu de toute manière, même s'il était monté. Oui, mais il va pas descendre. Quand il va monter. Il va rester un certain, toujours à ce niveau. Alors après, ou bien l'idée est que on pourrait très bien penser, en réalité, le rêve, pardon, le fait que Hachem ait dit qu'il y aura un esclavage pour les descendants, etc. Peut-être que ça se résume à Yosef. Yosef, il était esclave. C'est tout. Ah, et ça doit durer 400 ans. Ça n'a pas duré chez nous non plus, 400 ans. On peut imaginer que d'être tout seul, etc., c'est équivalent à 400 ans. Ah, un juif, c'est tous les juifs. Quand Achan, dans l'histoire de Hachem, il avait dit que les Bnei Israël, dans la conquête des restes d'Israël, ils n'avaient pas le droit de toucher au butin. Il y en a un qui a touché au butin. Et du coup, les Bnei Israël, à la bataille suivante, ils ont perdu. Alors, Yoshua, il a dit, mais je t'ai interrogé, tu m'as dit qu'il fallait faire la bataille, et maintenant on perd. Alors Hachem a répondu, Chata Israël. Elle a fauté. Alors, Yeshua, il a demandé Michata. Alors, Hachem a dit, je ne suis pas un délateur, je ne vais pas te dire. Alors, Yeshua, il a interrogé les Ourim et Thummim qui lui ont dit qui c'était. Donc, on a trouvé le coupable, c'était un bonhomme. Donc, quand Hachem a répondu Israël Chata, on comprend que, a priori, pour perdre une guerre, il faut au moins qu'il y ait un nombre important de juifs qui fautent, non? Un seul juif, ça suffit. Rav Volve, il disait que on pourrait imaginer que le Golout de Mitzrayim, c'est un Américain il est pas chez lui, il est en voyage et il a l'habitude, normalement il descend dans un Hilton et il n'y a pas de place dans le Hilton, donc il va au Marriott et il souffre énormément parce que la salle de bain au Marriott elle est à droite alors qu'au Hilton elle est à gauche. Donc voilà, il est en galoute, il a souffert. Donc on pourrait imaginer que le galoute, il se joue avec Yosef, plutôt. Nous, ça veut dire. On n'a pas le même. C'est pas lui 400 non plus, hein.